Vous écoutez RTL.
Maison Jardin Cuisine Brocante, ce dimanche matin, Thierry Églantine, Sébastien et Laetitia. Mes amis, bonjour.
Bonjour Bernard. Bonjour à tous.
Thierry, vous avez clos hier Maison Jardin Cuisine Brocante. Vous ouvrez ce matin et vous poursuivez sur l'aventure extraordinaire des patates des Andes, jugées très peu digestes au XVIe siècle. Bon, ça nous a donné faim tout ça, ma foi.
Des frites.
Tordons d'abord le coup à la légende de Parmentier, ce savant qui, sous Louis XVI, est censé avoir convaincu les paysans arriérés de manger des patates.
Alors, on gratte un peu,
il a surtout fait de la com.
Exactement.
Oui, grâce à lui, Marie-Antoinette a orné ses coiffures de fleurs de pommes de terre. Oui, il a fait garder par l'armée un champ de patates pour donner l'impression que ces pommes de terre étaient précieuses.
Donc il a quand même donné l'envie à tout le monde d'en cultiver. On a appris ça à l'école, non?
Oui, si ce n'est que cela a été d'une efficacité que très relative. Car dans les campagnes, presque tout était déjà joué avant lui. D'abord parce que, indigeste ou pas, ces pommes de terre ont été adoptées dès le début du XVIIe par bien des paysans.
Oui, et ça, Thierry, c'est avéré.
Oui, les registres fiscaux l'attestent avec la question qui tue. Faut-il ou non payer la dîme sur les patates? Les Basques s'y mettent les premiers, d'autres régions pauvres les imitent. Ces patates étaient mauvaises, certes, mais mieux valait en manger que de mourir de faim.
Alors, les bourgeois n'en mangeaient pas, mais les paysans pauvres, oui, et eux, ils en mangeaient.
Bon résumé, Bernard. Alors, dès le règne de Louis XIII, qui trouvait les pommes de terre dégoûtantes, mes ancêtres morvandiaux en cultivaient sous le nom de truffes.
Il
en était de même dans les Vosges et le Limousin.
Mais elles sont restées longtemps indigestes, ces patates, en fait?
Alors, peu à peu, les choses ont évolué. D'autres variétés ont été importées d'Amérique, meilleures au goût et surtout plus adaptées à notre climat, car arrivant à maturité plus tôt. Des cultivateurs inventifs ont alors cultivé toutes ces patates côte à côte et ont semé leurs graines en profitant ainsi des améliorations génétiques dues aux fécondations croisées.
Et c'est ça qui fait, Thierry, les nouvelles sélections qui sont à la fois savoureuses et digestes.
Tout à fait. Voilà. Et dès la fin du XVIIIe, quand Parmentier s'agite à la cour, la vraie révolution est déjà faite dans les campagnes.
Absolument.
44 variétés de patates bonnes au goût en France en 1789.
40. Et commence alors l'âge d'or de la pomme de terre.
Avec sa gloire.
Dans lequel nous vivons toujours.
Ah bah oui.
La gloire, c'est la fin des disettes chez les pauvres. Mais hélas, il y aura bientôt aussi son revers quand une maladie, le mildiou, ravagera la production irlandaise en 1845, provoquant une épouvantable famine. Ce mildiou, que l'homme apprendra à soigner avec le premier pesticide moderne, la bouillie bordelaise, en 1886.
Donc ça, c'est une autre histoire.
Faudra nous la raconter, celle-là.
L'aventure de la patate racontée par Thierry Denis au coin du feu.
J'adore.
Je vous jure ça, c'est de la grande radio. Aujourd'hui, côté Brocante et Églantine et Meillet, vous nous emmenez chiner de très beaux objets, tout en plus en faisant une très bonne action.
C'est exactement ça, Bernard. Il y a de plus en plus d'associations qui organisent leurs propres brocantes pour récolter des fonds. Et elles le font avec talent. Par exemple, la semaine prochaine, c'est le Secours Populaire qui organise un bel événement à La Rochelle. Une brocante solidaire, donc, et une vente aux enchères.
Sans vouloir faire mon sceptique, il y a vraiment des trucs intéressants. Ça fait plutôt vide-grenier, non?
Alors non, vous n'y êtes pas du tout. Il s'agit vraiment d'une brocante. D'ailleurs, c'est la 7e fois que le Secours Populaire le fait. L'association commence à acquérir un vrai savoir-faire dans le domaine. Preuve en est le nombre de personnes qui y vont et qui reviennent enchantées. L'an dernier, ils étaient 2000 à y être allés. Alors, c'est vrai qu'à la différence des brocantes professionnelles, les stands ne sont tenus que par des bénévoles.
Ils n'ont pas
l'expérience ni le savoir des brocanteurs. C'est pas eux qui vont vous raconter l'origine de tel objet, le pourquoi de sa forme. Faut oublier ça. Mais tous ces bénévoles, ils sont là avec le cœur. Ils n'ont qu'une envie, vendre bien sûr, mais vous faire plaisir aussi. Alors moi, je dis qu'il n'y a aucune raison de bouder un tel accueil, qui commence d'ailleurs dès jeudi après-midi à 14h avec un verre de l'amitié à 14h.
Ça nous plaît. Mais alors après, qu'est-ce qu'on y trouve dans cette brocante, du coup, des choses de la région peut-être?
Oui, alors j'ai vu que l'an dernier, on y vendait des maquettes de bateaux. Évidemment, on est dans la région. Il y a beaucoup de collections d'objets en étain, des tableaux maritimes, c'est vrai aussi, mais aussi tout ce qu'on trouve habituellement dans ce type d'événement. Donc il y a des livres anciens, de la vaisselle, des vinyles, des jouets, du prêt-à-porter, du mobilier, des objets de décoration, du linge ancien brodé, des carrés de soie, de grands couturiers, il y a de tout. Et moi, je vous invite aussi à admirer le lieu, puisque ça se passe dans la salle de l'oratoire de La Rochelle, une ancienne chapelle édifiée au XVe siècle. Ça donne une sacrée dimension à tout événement qui s'y installe.
Et alors, la vente aux enchères dont vous parliez tout à l'heure, elle se passe comment?
Alors, elle aura lieu en présence d'un commissaire-priseur, bien sûr, et les objets objets seront visibles à partir de 14h pour une vente à 15h30. Mais vous pouvez déjà voir tous ces objets sur le site internet de l'Hôtel des Ventes de La Rochelle.
Vous nous redonnez les dates exactes, s'il vous plaît.
Alors, c'est jeudi et vendredi prochain, les 22 et 23 février. Et puis, je voudrais rajouter, pour les passionnés, je vous signale le 42e Salon des Antiquaires de Nancy qui se tient depuis jeudi jusque lundi compris. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'avec le même billet d'entrée, vous aurez aussi accès à un salon Habitat Déco et un salon des métiers d'art. Et ça, je trouve ça toujours formidable.
Bien. C'est bien, hein, les billets couplés comme
oui,
ça.
Oui, c'est très très bien. Et je vous mets toutes les
sorties extrêmement enrichissantes. La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante dans un court instant. Bon, déjà hier, il ne voulait pas faire à cuisiner parce qu'il nous a parlé d'un bouquin.
Pareil, je n'ai pas changé.
Il veut buller devant la télévision.
Exactement.
Sébastien Demorand. Quant à Laetitia, elle a trouvé une peinture écolo. Ce n'est pas la première fois. Hein. J'espère que celle-là...
Ah, elle est bien.
Elle est bien. Mieux.
À tout de suite.
Maison, jardin, cuisine, brocante sur RTL.
Il est 9h45.
La suite de Maison Jardin Cuisine Brocante, Sébastien Demorand, comme vous l'aviez annoncé hier, vous poursuivez dans un week-end loin des fourneaux. Mmh. Hier, on a bouquiné. Quel est le programme pour ce dimanche ?
Eh bien, Bernard, on reste en position allongée, pour ma part, au lit, je n'en sors
c'est
pas.
C'est Laetitia qui a dû le convaincre.
J'ai mon ordinateur portable sur les genoux, bien calé, je lance mon navigateur internet et je me mets sur Netflix.
Pour voir un film ?
Non,
le
parce
festin
que,
de Babette.
Comme pas mal de monde, moi, je me suis récemment abonné pour les gamins. Et j'ai découvert, figurez-vous, de quoi assouvir littéralement sa faim de cuisine. Netflix, c'est pas que des séries ou des films un peu ringards parfois. C'est aussi, figurez-vous, des tonnes de documentaires sur l'alimentation, les chefs, les cultures gastronomiques. Et comme il y a à boire et à manger, évidemment, on va ensemble faire le tri.
Mais vous avez forcément eu un coup de cœur, là.
Oui, j'arrive dans un instant. Mais je voudrais d'abord vous inciter à regarder, pour commencer, et pour ceux qui ne la connaissent pas, cette série américaine assez connue dans le monde des foodies, comme on dit, qui s'appelle Chef's Table.
La table
des chefs. Il y a déjà 4 saisons au compteur pour aller à la découverte de quelques-uns et de quelques-unes des plus grands chefs du moment. Entre l'Australie, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, c'est des gens comme Ben Shuri, Alex Atala, Dominique Crène ou encore Ivan Orkin.
On ne les connaît pas. Oui.
Sébastien, rassurez-moi, il y a quand même quelques chefs français dans cette histoire.
Il faut les découvrir, ces chefs. Alors Thierry, oui, la 4e saison de Chef's Table est exclusivement consacrée aux cuisiniers français.
Je suis rassuré.
Passard, Alexandre Couillon, formidable à Noirmoutier, Michel Troisgros ou encore Adeline Grattard. Ici et avec Paris, ça, Grattard. Mon cher Thierry, vous serez totalement au point dans les dîners en ville. C'est un vaste panorama des restaurateurs et des cuisines du moment et globalement, ça donne plutôt envie d'aller bouffer au resto. Donc c'est bien.
C'est une bonne chose.
Voilà.
Qu'est-ce qui vous a ouvert encore l'appétit ?
Ah, il y a des choses qui m'ont surtout coupé l'appétit, figurez-vous.
Ah bon ?
Parce qu'il y a pas mal de documentaires et de reportages qui sont très intéressants, comme cette série qui s'appelle Rotten, ça veut dire pourri en anglais. Et elle explore, cette série, certains effets terrible, évidemment, de la mondialisation alimentaire. Il y a un épisode, par exemple, sur l'ail, figurez-vous, qui raconte que la Chine, qui est le premier producteur mondial, fait travailler des prisonniers pour abaisser ses coûts de production avant d'aller inonder le marché américain à bas prix, évidemment, et concurrencer les petits producteurs d'ail américains. Alors, c'est pas très, très ragoûtant, mais c'est franchement instructif quand on s'intéresse aux enjeux mondiaux de l'alimentation.
Moi, j'ai vu un documentaire hallucinant sur la tomate. Qui a été entièrement privatisé par les Chinois.
Il n'y a pas très longtemps
sur... Quand vous achetez, par exemple, du concentré de tomates,
il vient
de Chine. Absolument. Il est marqué en italien sur le tube, mais en fait, il vient de Chine. Tous les producteurs de tomates européens sont en train de crever avec ça.
Ouais. Alors, c'est vraiment pas joli tout ça.
Oui, c'est
vrai. On va changer les idées.
Oui.
Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez eu un coup de cœur.
Oui, un coup de cœur, Thierry. Alors, encore un documentaire qui explore, c'est génial, l'histoire d'un plat culte aux États-Unis. Un plat, dit-on, d'origine chinoise, c'est le fameux poulet General Tso. Qui est cuisiné dans tous les boui-boui du Texas, du Montana, comme dans les vrais bons restaurants de Chinatown à New York. Alors, d'où vient ce plat ? Qui l'a créé ? À quelle époque ? C'est une grande enquête historico-gastronomico-sociologique entre la Chine et les États-Unis, où ce plat est, en Chine, totalement inconnu.
Ah, c'est génial.
C'est hyper drôle. Alors, c'est évidemment la communauté immigrée au début du XXe siècle aux États-Unis qui a façonné le plat, sa légende, adapté au goût américain. C'est donc l'histoire d'une assimilation culturelle par la gamelle. Et ça, c'est évidemment passionnant. Bon, vous avez vu, il y a plein de choses à voir et à manger sur Netflix. On en reparlera, je pense, ces prochains mois. Et d'ici là, on va peut-être réfléchir à 2-3 plateaux télé. Hein
très bien.
Voilà.
Ça, c'est une bonne idée,
très
ça.
Bonne idée.
Autre bonne idée, Laetitia Nallet, votre trouvaille, la peinture à l'eau, c'est plus rigolo. Qui chante là?
C'est bien difficile. Bah, c'est la pointe.
Il chante ça, la peinture à l'huile c'est plus difficile, la peinture à l'eau c'est plus rigolo.
Absolument, il aurait pu dire aussi que la peinture à l'eau c'est plus écolo, car nous allons nous soucier de notre santé.
Allez, répondez-moi franchement, qui fait attention avant d'acheter une peinture à sa toxicité?
Moi.
Pas moi,
moi,
oui.
Non, moi.
Je regarde
ça pas moi.
Il faudrait faire gaffe.
Le problème, c'est que c'est pas très clairement
indiqué. Non, c'est un peu compliqué tout ça. Il y a les peintures glycéro à base d'huile avec nettoyage des outils au white spirit qui ont presque disparu du marché parce qu'elles émettaient beaucoup trop de COV,
composants organiques volatiles.
Pour vous souvenir, en fait, c'est comme les pots d'échappement des matériaux. Oui. On les trouve dans les peintures, les tissus, les PVC, les vernis, les colles. Mm-hmm. Ils polluent l'air des pièces dans lesquelles on se trouve.
Voilà. C'est pour ça qu'on utilise tous des peintures acryliques.
Alors, acrylique, ça veut dire quoi? Ça veut dire nettoyage des outils à l'eau, la peinture acrylique, c'est mieux. Depuis 2011, l'émission du taux de COV est surveillée. C'est moins de 30 grammes de COV par litre si vous achetez des produits avec l'indication A+. Donc, OK, vous achetez un pot de peinture préféré A+.
Mais je comprends pas. Acrylique, c'est pas écolo?
Ah bah non,
c'est
la peinture acrylique, elle est en phase aqueuse, d'accord, mais elle est fabriquée avec une résine chimique issue de l'industrie pétrolière.
Ah, okay.
Donc, si vous ne voulez aucune émission de COV dans votre intérieur, il faut utiliser une peinture à la chaux.
Alors, moi, je vais faire mon vieux ronchon. Ah. Les couleurs de ces vieilles peintures à la chaux, elles sont pas toujours top.
Pas toujours, pas toujours. Mais depuis trois ans, il y a des... Et puis après, on veut aussi acheter un pot tout prêt à l'emploi, etc. Donc depuis trois ans, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des peintures écolo qui sont arrivées sur le marché. Elles ne sont pas toutes jolies non plus dans les couleurs. Mais moi, j'en ai repéré une qui est juste sublimissime, je trouve, qui s'appelle Pure and Paint.
Émission... C'est anglais, ça.
Écoutez bien, l'émission de COV par pot, c'est 0,001 gramme par litre.
C'est très dalle,
c'est parfait, quoi.
En plus, c'est une peinture qui est fabriquée en Rhône-Alpes, qui a
développé jolies couleurs.
Ouais, c'est superbe. Hein. Alors, elle a développé une résine verte à base d'huile de colza. C'est la même que vous avez dans votre vinaigrette. Il y a aussi de l'huile de lin et de l'huile de bois.
Ouais.
C'est une peinture donc végétale, fabriquée avec 98% de matières premières naturelles et locales. Donc, elle est biodégradable. Ça veut dire que vous pouvez carrément jeter la fin du pot dans l'évier de la cuisine.
Et une peinture écolo, c'est la garantie donc de ne pas polluer la pièce.
Voilà.
D'une façon. Hein.
Là, il n'y a aucune émanation nocive. C'est-à-dire que vous repeignez, vous pouvez dormir dans la pièce le soir même. Vous ne craignez rien. Cette marque Pure and Paint travaille pour les maternités, les crèches, les établissements de santé et a développé un nuancier de 1200 teintes pour nous faire rêver parce qu'évidemment, elle est en vente aussi pour nous, grand public.
Et c'est aussi solide, ça tient aussi bien que les autres peintures?
Oui, ça tient aussi bien. Et alors, ça a un plus, les peintures écolo, c'est qu'elles sont plus vivantes. Elles captent et elles renvoient mieux la lumière.
Ah ouais.
Vous savez, une peinture acrylique, elle est filmogène, c'est-à-dire qu'elle va former comme un film transparent sur le mur. Du coup, c'est un aplat, l'œil, il voit quoi? Il voit le film et il ne va pas plus loin. Alors qu'avec la peinture écolo, il n'y a pas de formation de film, ce qui apporte de la profondeur à la couleur. Et généralement, comme elle est plus grasse, elle est plus facile à appliquer.
Parfait.
C'est pas mal.
Un petit défaut, c'est que c'est plus cher, forcément. Mais c'est fabriqué avec des belles choses. C'est entre cette peinture-là, Pure and Paint, c'est entre 34 et 43 euros du litre.
D'accord.
Le prix s'oublie, la qualité reste.
Bien vu, Thierry. Bien
ça, c'est
si vous n'avez rien à faire, ça
et si on ne veut pas s'intoxiquer, c'est bien.
Vous pouvez venir chez moi.
Merci beaucoup, mes amis, en tout cas. Je vous souhaite une très bonne semaine.
Bonne semaine à vous aussi.
À samedi prochain. Sans faute, soyez présents. Bye.